Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, vient de nous déclarer saint Paul dans l'Épître. Dieu dit en effet, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Le carême est un temps favorable, ce sont des jours de salut, des jours de choix et de grâce. Mais favorable pourquoi ? Pour se convertir. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur par des jeûnes, des larmes et des pleurs, et déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que nous avons lu le mercredi des cendres dans l'épître de la messe. C'est un passage du prophète Joël. Donc le carême est un temps de conversion. Convertissez-vous. Conversion veut dire retournement. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu parce qu'on s'en était détourné. Or, vous le savez, on peut se détourner de Dieu de deux manières. On peut se séparer de Dieu, se détourner de lui gravement, totalement, par le péché mortel. Dieu ne vit plus dans l'âme qui s'est ainsi détournée de lui. Elle est devenue ennemie de Dieu. Ou bien, on peut aussi se détourner de Dieu sans l'exclure, par la tiédeur, le relâchement, la multiplication des fautes véniales délibérées contre lesquelles on ne lutte plus. Alors il s'ensuit qu'il y a deux sortes de conversion. On se convertit en revenant vers Dieu dont on s'était coupé, c'est-à-dire en passant de l'état de péché à l'état de grâce, en retrouvant l'amitié de Dieu qu'on avait perdue par le péché grave, ou bien on se convertit en passant d'une vie chrétienne imparfaite, médiocre, relâchée, à une vie plus sainte, plus fervente, plus fidèle. Et dans les deux cas, le carême est une occasion privilégiée, un moyen efficace pour opérer ce mouvement de retour à Dieu et pour se rapprocher de lui. En effet, plus qu'en aucun autre temps, l'Église nous propose, au temps du carême, des instruments de conversion, comme dit saint Benoît dans sa règle. L'expression est très belle, des instruments de conversion. Avec une insistance toute maternelle, l'Église nous convoque plus souvent à la prière pendant ce temps. Elle nous encourage à rentrer en nous-mêmes. Elle multiplie les exhortations, les avertissements, les enseignements, les conseils. Elle nous demande d'examiner notre conscience, de confesser nos péchés par une bonne confession avant Pâques, et puis à faire généreusement pénitence et à prendre des résolutions efficaces. Alors vous voyez, le carême c'est comme une grande retraite, une retraite dont on ne dira jamais assez la richesse. La liturgie pendant ce temps y est plus riche que dans n'importe quelle autre période de l'année chrétienne. Chaque jour, regardez dans vos missels, vous verrez, chaque jour, l'Église nous propose une messe propre, avec des textes soigneusement sélectionnés, qui ne sont donnés à aucun autre moment de l'année. Et puis elle nous offre les exemples des grandes figures de l'Ancien Testament. Au bréviaire, nous allons pouvoir ainsi contempler tous les grands personnages, tous les grands patriarches, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Et surtout, pendant tout ce temps, l'Église, dans les évangiles, notamment des dimanches, et puis de la plupart des évangiles des féries, l'Église va nous montrer Jésus marchant jour après jour vers son calvaire, montant au calvaire, entrant en lutte contre le mal et les puissances du mal, se retirant du monde pour jeûner, prier pendant 40 jours, c'est l'évangile d'aujourd'hui, nous enseignant par son exemple comment il faut mourir à nous-mêmes, dompter notre chair, vaincre le monde, et puis finalement, quand nous arriverons au temps de la Passion, à la fin du carême, nous verrons Jésus s'offrir lui-même en sacrifice de propitiation pour le salut de nos âmes. Alors, qui, s'il s'attache à scruter jour après jour les trésors de cette liturgie, qui pourrait rester indifférent et ne pas sortir du carême transformé? Si on fait bien le carême, c'est vraiment un temps de conversion. Mais pratiquement, comment se convertir? Nous l'avons lu dans le prophète Joël, il nous l'a dit, par des jeûnes, des pleurs et des larmes, en déchirant nos cœurs et non pas nos vêtements. Les anciens en Orient déchiraient leurs vêtements en signe de deuil, ou quand ils étaient frappés par quelque grand malheur. C'était chez eux un signe de repentir. Mais il ne faut pas se contenter d'un signe extérieur de douleur ou de regret. Dieu nous demande le repentir intérieur, la compunction du cœur, la douleur de l'âme, ou comme on dit dans le psaume Miserere, un cœur contrit et humilié. Contritum, un cœur broyé. C'est ça que ça veut dire. Broyé, parce que ce cœur sait qu'il a péché contre Dieu et qu'il a offensé le bon Dieu. Alors il en est tout broyé. Tibi soli peccavi et malum coram tefeci. Contre vous, vous seul, mon Dieu, j'ai péché. Et ce qui était mal à vos yeux, je l'ai fait. Voilà le sentiment que l'Église nous demande d'avoir pendant le carême. Et ce sentiment de contrition ne doit pas en rester au stade du simple sentiment. Il doit se traduire dans des actes. Nous devons expier, réparer nos péchés. Et comment? Eh bien par la pénitence. La pénitence, c'est la vertu propre de ceux qui ont péché. De ceux qui, de ce fait, ont mérité une peine. Peine, pénitence, c'est le même mot. Et le carême, précisément, est le temps de la pénitence par excellence. Mais comment exercer la pénitence? Comment allons-nous faire pendant tout ce carême pour faire pénitence? Eh bien, en faisant deux choses. En regrettant nos péchés, c'est ce que nous venons de dire, c'est le repentir, la compulsion intérieure, qui est comme l'âme de la pénitence, sans laquelle il n'y aurait pas de vraie pénitence. Et puis, en nous mortifiant, pour réparer nos péchés passés et prévenir de nouvelles chutes possibles. Nous mortifier. C'est un mot qui ne nous plaît pas trop, ça. Et surtout, la réalité qui est derrière ce mot nous fait peur. La mortification est quelque chose qui effraie notre sensibilité naturelle. Mortifier, étymologiquement, ça veut dire faire mourir. La mortification consiste à faire mourir en nous tout ce qu'il y a de mauvais. Le péché, bien sûr, mais aussi les mauvaises habitudes et les racines du péché. C'est-à-dire toutes ces mauvaises tendances qui nous tirent vers le mal. Ces tendances au mal ou ces mauvaises habitudes, saint Augustin, au moment de se convertir, vous savez que saint Augustin est un grand converti, les appelait ses vieilles amies. Et l'expression est très profonde, elle est très suggestive en tout cas. Voici ce qu'il écrit dans ses confessions. C'était juste avant sa conversion, au moment où il s'approche du baptême déjà. « J'étais retenu, écrit-il, par ces misères de misères, ces vanités de vanités, qui étaient mes vieilles amies. Elles me tiraient, pour ainsi dire, par le vêtement de ma chair et me murmuraient tout bas, « Est-ce que tu nous quittes? Quoi? Dès ce moment, nous ne serons plus avec toi? Pour jamais? Pour l'éternité ?» Dès ce moment, telle et telle chose que tu sais bien ne te sera plus permise, pour jamais, pour l'éternité. Et saint Augustin continue ainsi. C'est très finement analysé. Tous ont fait l'expérience. Qui n'a pas éprouvé ces suggestions redoutables? Alors, pour éradiquer ces vieilles amies, eh bien, il faut se mortifier. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, nous constatons que nous avons en fait quatre bonnes raisons de nous fortifier, de nous mortifier, pardon. Quatre bonnes raisons. La première, c'est à cause du péché originel. Nous avons tous le péché originel. Enfin, le baptême l'a effacé, mais nous en gardons les blessures. Le péché originel a introduit en nous le désordre, ce que le catéchisme appelle les blessures du péché originel. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Notre âme est blessée. Nous ne sommes pas bons par nature. Nous naissons avec de mauvaises tendances qu'il nous faut réprimer. Et c'est une première raison tout à fait importante de se mortifier. Et puis il y a une deuxième raison qui va dans le même sens. Nous devons nous mortifier à cause de nos péchés personnels qui ont aggravé cet état en créant en nous de mauvaises habitudes. Même pardonnés, nos péchés ont laissé des traces mortifères dans notre âme. Il faut donc purifier, nous purifier de toutes ces scories, de tous ces miasmes qui nous habitent. Et vous remarquerez que ces deux premières raisons peuvent au fond se résumer en une seule. Il faut nous mortifier à cause du péché, pour ne pas périr. Si vous ne faites pénitence, dit notre Seigneur, vous périrez tous. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore deux autres raisons, qui cette fois sont positives. La troisième raison pour laquelle la mortification est nécessaire, c'est à cause de notre élévation à l'ordre surnaturel. Dieu nous destine à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une participation à la propre vie de Dieu, à la vie divine. Dieu nous veut saints, il nous veut immaculés en sa présence. C'est ce que dit saint Pierre dans sa première épître. Consortes divinae naturae eius. Nous devons être semblables, participants à la propre vie divine de notre Seigneur, de Dieu le Père. Et cela suppose que nous retranchions de nos vies tout ce qui en elle est trop humain, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous rend esclaves. Et donc, cela suppose que nous nous mortifions. Pour prendre une image, nous devons faire ce que les occupants d'une montgolfière font quand l'air qui les porte n'est plus assez porteur et que la montgolfière a tendance à se rapprocher dangereusement du sol. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on jette du lest pour alléger la montgolfière et pour lui permettre de remonter. Eh bien, par la mortification, c'est ce que nous faisons. Nous jetons du lest, nous nous détachons de tout ce qui est nuisible ou simplement inutile pour la vie de nos âmes, afin d'être davantage attachés à Jésus-Christ. Il faut couper les fils qui nous retiennent au sol, à la terre, pour pouvoir tisser les fils qui nous rattachent à Dieu. Et puis enfin, la quatrième raison de nous mortifier, c'est à cause de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a souffert, il est mort par amour pour nous, pour racheter nos péchés. Et le chrétien doit se conformer à Jésus-Christ, parce qu'il est un autre Christ. Alors sans doute, notre Seigneur n'avait pas besoin, lui, de faire pénitence, ni de se mortifier, puisqu'il était sans péché. Mais il s'est tout de même mortifié, il s'est même sacrifié pour nous sauver et pour nous donner l'exemple. Et en nous mortifiant à notre tour, nous nous identifions à lui, nous nous incorporons à lui et à sa croix, nous le consolons et nous nous appliquons les fruits de son sacrifice rédempteur. Saint Paul a un mot très fort, mais qui est très profond. Confixus sum cum Christo. Je suis crucifié, co-crucifié avec le Christ. Et vous pouvez constater que ces deux dernières raisons, à l'inverse des deux premières, sont positives. Et on peut les condenser, elles aussi, en disant qu'il faut se mortifier à cause de l'amour de Dieu. Non seulement à cause du péché, mais encore et surtout à cause de l'amour de Dieu. Et cela nous indique le motif véritable de la mortification. C'est l'amour de Dieu, c'est la charité. La mortification n'a pas sa fin en elle-même. Elle n'est qu'un moyen nécessaire pour atteindre notre fin surnaturelle. Le but, la fin, c'est l'union à Dieu. Et ainsi le carême, s'il est bien pratiqué, va nous unir davantage à Dieu, va nous faire grandir en charité. Et c'est pour ça qu'il faut faire un bon carême. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'Église est une mère. Elle ne se contente pas de nous prescrire des généralités. Elle descend jusque dans les détails et elle nous donne des remèdes concrets, des remèdes précis. Et les remèdes pratiques que l'Église nous recommande pour le carême sont au nombre de trois. C'est la prière, le jeûne et l'aumône. Voilà les trois grands moyens par lesquels nous allons précisément faire pénitence et nous mortifier. La prière, le jeûne et l'aumône. La prière, on comprend bien. La prière, l'esprit de prière, la méditation plus assidue de la parole de Dieu, de tous ces textes que l'Église va nous proposer pendant le carême, jour après jour. La participation plus fréquente à la Sainte Messe, c'est la première démarche que l'Église attend de nous pendant le carême. Car c'est la prière qui donnera son prix à tous nos sacrifices de carême. C'est elle qui doit être en quelque sorte l'âme de notre carême. Sans la prière, tous les exercices de la pénitence n'auraient plus de sens. Il risquerait même d'engendrer l'orgueil. Ça serait un comble. Donc la prière. Et puis après la prière, l'Église nous recommande le jeûne. Le jeûne, c'est une pratique très traditionnelle dans l'Église. Elle remonte au tout premier temps de la chrétienté, et même avant d'ailleurs. Dans l'Ancien Testament, déjà on jeûnait. Et vous savez que le jeûne était obligatoire pour tous les baptisés adultes jusqu'à notre époque de dégénérescence spirituelle. Il faut retrouver cet esprit. La prière s'adresse à l'âme, mais le jeûne, lui, concerne le corps. Tout notre être fait carême. Mais ce ne sont pas là des pratiques opposées. Bien au contraire. Le jeûne doit être l'expression des sentiments de pénitence dont l'âme est pénétrée. Et l'âme peut s'occuper d'autant plus librement des choses de Dieu, donc prier plus librement, qu'elle retranche davantage au plaisir des sens. Vous voyez comme l'une pratique appelle l'autre. Le jeûne, avant d'être utile au corps, est utile à l'âme. Il dégage l'âme de la matière. Il lui donne une facilité merveilleuse pour s'élever à Dieu. L'homme qui mange avec excès s'animalise. L'homme qui jeûne se spiritualise. Saint Basile a même un mot paradoxal, mais très profond. Il dit que le jeûne est l'aliment des grandes âmes. C'est paradoxal de dire que le jeûne est un aliment, mais c'est très vrai. L'aliment des grandes âmes. Et c'est dans le même esprit que jadis la société chrétienne suspendait pendant le carême les assises des tribunaux et les guerres. On ne faisait pas de guerre pendant le carême au Moyen-Âge. Et c'était aussi le temps clos pour les noces. Et dans le même esprit de foi, l'Église exhortait les époux à observer la continence pendant toute cette période du jeûne solennel. Il faut retrouver cet esprit, mes frères, autant que nous le pouvons. À juste titre, nous nous plaignons aujourd'hui de ce que les temps sont mauvais. Il suffit de regarder le monde. Nous gémissons de voir l'Église vilipendée. Les âmes se perdent, le monde courir à sa ruine. Mais gémir ne changera rien. Gémir ne changera pas les choses. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est celle dont les saints nous ont donné l'exemple. Reconnaître que nous avons péché et nous convertir. Alors Dieu nous fera miséricorde. Autrement dit, il faut faire un bon carême. C'est comme ça qu'on pourra résoudre la crise actuelle. Et puis enfin, l'Église nous recommande spécialement la pratique de l'aumône pendant le carême. L'aumône, c'est donner de son superflu et même éventuellement de son nécessaire pour soulager la misère du prochain. L'aumône, dit saint Jacques, couvre une multitude de péchés parce qu'elle nous détache des biens matériels et combat notre tendance à la cupidité. Saint Augustin, encore lui qui avait le sens des formules, dit « minuatur cupiditas » Augeatur caritas, que diminue la cupidité et que grandisse la charité. Et en effet, si la cupidité diminue, la charité grandira. Et c'est ce que fait l'aumône, précisément. Alors, vous le savez, il y a l'aumône matérielle, mais il y a aussi l'aumône spirituelle, qui est plus importante encore, et que tous nous pouvons pratiquer, même si l'on ne possède aucun bien. Par exemple, visiter des malades, se dévouer auprès de ceux qui sont dans le besoin, donner de son temps, faire plaisir, émailler nos journées de ces mille petites trouvailles du cœur grâce auxquelles la charité fraternelle règne effectivement. Faire l'aumône d'un sourire, c'est peu de choses, mais c'est déjà ça. Il nous faut terminer en ce premier dimanche de carême pour bien entrer dans la sainte quarantaine. L'Église nous a fait méditer les tentations de Jésus au désert. C'était l'Évangile que nous avons entendu. Nous avons vu ce récit du grand jeûne de 40 jours que notre Seigneur a voulu opérer avant de commencer sa vie publique et son combat contre le diable, pour bien nous montrer que le temps du carême est un temps de combat. Et en même temps, la liturgie de ce jour est dominée par le psaume 90, « Qui habitat in adiutorio altissimi », qui est un psaume de confiance par excellence. Ce psaume est donné tout au long dans le trait. Il était là tout entier. Et il est repris dans toutes les antiennes de la messe d'aujourd'hui. L'introïte, le graduel, l'offertoire et la communion. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le combat qui l'oppose à Satan, le Christ est victorieux. Et la victoire du Christ nous signifie que nous pouvons nous aussi triompher. Que dans nos propres tentations, dans nos propres combats, ce sont la tentation du Christ, le combat du Christ, la victoire du Christ qui se jouent à nouveau. Notre effort, c'est le sien. Nos forces, ce sont les siennes. Nos victoires, ce sont aussi les siennes. Il n'y a que le péché qui soit entièrement nôtre. Alors nous devons être pleins de confiance. On pourrait transposer les versets du psaume. Ce psaume s'adresse à notre Seigneur. Il s'applique à notre Seigneur d'abord. Mais nous pourrions redire à notre Seigneur cette fois, en s'adressant à lui, « C'est vous qui êtes mon refuge et ma citadelle, » comme dit le psaume. « Qu'il en tombe 1000 à ma gauche et 10 000 à ma droite, rien ne pourra m'atteindre. Car à vous qui êtes son ange, Dieu a donné mission de me garder en toutes mes voies. » Vous me porterez sur vos mains de peur que mon pied ne heurte quelque pierre. Voilà ce qu'il faut demander à notre Seigneur. Pour terminer, le pape Benoît XIV, en 1741, c'est pas d'aujourd'hui, a adressé aux catholiques de son temps une encyclique sur le carême. Et dans cette encyclique, voici ce qu'il dit. C'est très profond, écoutez bien. L'observance du carême est le lien de notre milice. Nous sommes des soldats. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Les ennemis de la croix font pas carême, eux. C'est par elle que nous détournons les fléaux de la divine colère. Et c'est bien ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est par elle qu'armée du secours céleste pendant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Et alors, le pape termine, et c'est très important, si cette observance vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes, et l'on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne une source de malheur pour les peuples, de désastre dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. Si les choses vont mal, c'est parce qu'on ne fait plus carême. Alors demandons à Notre-Dame qu'elle nous obtienne la grâce de faire, nous, un bon, un saint, un généreux carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.